Danse à me plaire.
Bienvenue pour un nouveau best-of de l'émission Tendance à me plaire, en attendant de vous retrouver pour des émissions inédites et en direct à partir du mardi 1er juin, si les conditions sanitaires nous le permettent bien sûr. Alors d'ici là, vous nous retrouverez également sur Radio G entre le 29 mai et le 6 juin dans l'émission 100% à l'occasion des 100 ans de la radio. Nous reviendrons ensemble sur les grands événements qui ont marqué les domaines de la musique, des médias, des nouvelles technologies, de l'art de vivre, de la mode, mais aussi des faits historiques. Alors pour en savoir plus, restez connectés sur nos comptes, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, mais aussi Instagram et bien sûr sur radio-g.fr. Pour revenir à l'émission de ce soir, alors au programme, vous réentendrez l'interview de Hilse, une passionnée de Lego. Nous l'avions invitée en décembre, notamment à l'occasion de l'émission sur M6 Lego Master, un thème qui a inspiré Monsieur Kiosk qui nous a raconté l'histoire des Lego. Vous entendrez également un sous-touch de l'émission spéciale boulangerie. Vous entendrez Caroline qui répondra à toutes nos questions qu'on s'est posées autour de la mode. Nous avons également choisi de vous repasser l'interview de Haishi, un aventurier photographe qui nous a parlé de sa passion des voyages, notamment en Asie et en Islande. Ça va vous faire rêver. Et enfin, en toute fin d'émission, vous entendrez une chronique de Manu, notre spécialiste santé. Elle nous a expliqué le phénomène de la mort imminente. Alors, bonne émission à tous! Ce soir, on parle de Lego à l'occasion de la venue de notre invité du jour. Hein. Mais avant de l'entendre nous parler de sa passion, on va laisser place à Monsieur Kiosk pour en connaître davantage sur l'histoire de ce jouet.
Alors, Lego est danois jusque dans son nom, puisqu'il est formé de leg, qui signifie jouer, et got, qui signifie bien, ou hoot en néerlandais ou en flamand par exemple. Yeah. Hasard du destin, Lego signifie aussi j'assemble en latin. Revenons un peu sur l'histoire de cette brique qui a permis à Lego d'être élu jouet du siècle. C'est dans les années 60 que la marque devient populaire et fait le bonheur des jeunes enfants. Les premiers Lego que j'ai manipulés étaient à mon beau-papa, qui les avait eus dans ces années-là, justement. Bref, coup marketing génial, la marque ouvre un parc à thème en 1968 à Billund, la ville natale du créateur des célèbres briques. Puis, dans les années 70, viennent les petits personnages jaunes, longtemps avant les Simpsons. Deux grosses décennies de succès pour Lego, qui aura même créé un produit annexe à destination des bambins, le Duplo. Beaucoup plus difficile à avaler, mais qui fait beaucoup plus mal quand on marche dessus. Bon, pour le nom, je sais pas. Pour le nom de Duplo. Petit calme, pendant les années 80 et 90, Lego profite de sa notoriété sans être trop inquiété par la concurrence, jusqu'au début des années 2000, où la popularité des jeux vidéo va obliger la firme à se réinventer. C'est alors que les petites briques, mais surtout les personnages, vont faire leur apparition sur les diverses consoles de jeux, et dans cette même optique marketing qui avait poussé à ouvrir le parc en 1968, Lego fait son cinéma depuis 2014 donc. Et on verra ça avec Olivier. Aujourd'hui, ce sont plusieurs générations sur une soixantaine d'années qui a vu passer entre ses mains ces petites briques de construction qui n'ont eu de cesse de stimuler nos imaginations d'enfants. Ce sont aussi de nombreuses franchises comme Star Wars ou Harry Potter qui ont définitivement inscrit Lego comme le jouet du siècle. Pourtant, la route a été longue pour le créateur Ole Kirk Christiansen, dont la devise était « Seul le meilleur est bien ». Bon, en danois dans le texte, mais un truc comme ça. Et dont le premier jouet était un canard en bois. Retour sur le parcours d'un créateur qui est mort l'année même où il a déposé le brevet des briques en plastique. Christiansen est né en 1891 à Billund, au Danemark donc, et a ouvert un atelier de menuiserie-charpenterie en 1916 pour satisfaire aux besoins des paysans de la région. Je pense que vous voyez le rapport avec le canard en bois, mais peut-être moins avec le Lego en plastique. Donc, on y vient. Coup sur coup, Christiansen doit affronter un incendie en 1924, une crise boursière et mondiale en 1929, deux événements majeurs qui le poussent à envisager de revoir sa méthode de production à la chaîne. Donc, pour s'exercer, il réalise des miniatures de ses menuiseries, et de là, lui vient l'idée de tout simplement fabriquer des jouets pour enfants. Il crée en 1932 son entreprise qui deviendra, en 1934, Lego. Pour terminer sur ce parcours jusqu'à l'invention de la brique en plastique, il faut savoir qu'en 1940, c'est la guerre. Et surtout qu'un incendie détruit à nouveau ses chaînes de montage, pas de chance décidément. Donc une nouvelle fois, Christiansen réfléchit à une façon de se réinventer pour se remettre d'aplomb. Il commercialise dès 1949 sa briquette en plastique, qui ne marche pas, c'est un échec, parce que les pièces en fait s'emboîtent mal. Donc c'est un peu plus tard, en 1958, qu'un procédé fiable est trouvé et dont le brevet est déposé, hélas, la même année que la mort du créateur du Lego, à 66 ans. Voilà, c'était tout pour Monsieur Kiosque.
Merci Monsieur Kiosque. Place maintenant à notre invité du jour.
C'est l'heure de l'invité.
Alors, avec nous aujourd'hui, Ilse Vaessen, une passionnée de Lego, à tel point qu'elle a décidé de créer notamment Le Royaume des Briques, un compte Instagram dédié à sa passion et sur lequel elle publie régulièrement ses créations, mais aussi des ateliers qu'elle mène auprès des enfants, auprès de qui elle travaille. Alors, bonjour Ilse, on va entendre votre voix.
Bonjour Raphaël.
Ah, alors avec un petit accent, on peut peut-être le préciser, hein. Vous êtes de quelle origine, Ilse ?
Oui, en fait, je suis belge, je suis flamande. Ça fait 6 ans et demi que je suis à Angers.
D'accord. Alors, on voudrait en savoir un peu plus justement sur votre passion. On va parler de notamment du compte Instagram tout à l'heure, mais sur votre rapport au Lego, racontez-nous votre histoire, comment ça a commencé tout ça ?
Alors, quand j'étais petite, bien entendu, j'ai eu des Lego, comme beaucoup, beaucoup d'enfants. Après, à l'âge de 12 ans à peu près, je pense que j'ai arrêté de jouer avec les Lego parce que ma maman n'aimait pas trop que je commençais à jouer avec des Lego techniques. Elle trouvait que c'était plus pour des garçons. Donc j'ai arrêté. Après, quand je suis devenue enseignante spécialisée, je cherchais toujours des outils un peu ludiques pour travailler avec les jeunes qui ont des difficultés scolaires, pour les motiver et tout. Et en fait, il y a 2 ans et demi, j'ai redécouvert un peu des Lego. Et en fait, ouais, ça a bien cartonné avec les jeunes. Et depuis, je les utilise très régulièrement pendant mes séances. Et donc, je donne aussi des ateliers Lego à l'école Noir et Blanc.
Alors, c'est quoi l'école Noir et Blanc ? Précisez, s'il vous plaît, ce que c'est.
Oui, en fait, ça a été créé il y a un an par la fondation SCO, Fondation d'entreprise.
D'accord.
C'est une soixantaine de jeunes de la Roseraie qui y viennent 2 fois par semaine. C'est ouais, sur le temps périscolaire. Et en fait, ils font des activités sportives et culturelles. Et moi, je donnais des ateliers Lego.
Ah,
mais
c'est
tout
dingue.
Ça, c'était avant la pandémie, parce que depuis mars, j'ai dû arrêter ces ateliers-là.
Et du coup, ça marche. En fait, qu'est-ce que vous proposez pendant ces ateliers ? Vous avez des défis à réaliser ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, pourquoi ça marche aussi ? Qu'est-ce qui plaît aux enfants ?
Alors, ça dépend un peu. Ça peut être des défis Lego, soit j'explique une technique et on travaille un peu là-dessus, ou on crée un jeu en utilisant des Lego, par exemple un labyrinthe. Et on a fait aussi une mosaïque énorme avec le logo de l'école Noir et Blanc. Et donc, ils étaient très très bien appliqués pour réussir ça. C'était magnifique.
D'accord.
Donc, ça dépend un peu. Ouais.
D'accord. Et d'accord. Et d'ailleurs, vous avez une relation particulière avec un footballeur. Hein, j'ai vu ça également, qui a acheté. Alors, tout honneur, bien sûr, hein, mais qui vous a contacté pour acheter quelque chose. Hein. Racontez-nous.
Oui. Alors, en fait, Vincent Monceau, c'est un joueur c'est le parrain de l'école Noir et Blanc.
Ouais.
Quand il a joué son 150e match en Liga, En fait, pour célébrer ça, j'avais créé une mini figurine en grand, quoi. C'était ouais. à peu près 30 cm de hauteur, je pense. Et en fait, il m'a contacté pour savoir s'il pouvait l'acheter. Et donc, on en a discuté. Et donc, en plus, il m'a donné un maillot dédicacé. Donc, c'était trop bien.
Excellent. Bon, alors, votre passion, comment elle s'applique au quotidien chez vous? Alors, est-ce qu'on peut y voir des créations quand on va chez vous? Racontez-nous un petit peu où est-ce que vous le stockez, combien vous en avez. Racontez-nous votre quotidien avec le Lego.
Alors, en ce moment, il y a un peu de Lego partout dans la maison.
Ouais.
Ça va changer. Normalement, dans 2 mois, je vais avoir une chambre vraiment dédiée au Lego. Ça va ouais. me changer la vie parce que c'est pas très pratique d'avoir un Lego à gauche et à droite et toujours être obligé de chercher où on l'a mis. Sinon, parce que j'ai quand même pas mal de Lego, hein, j'ai à peu près 150 kilos de Lego, 60 kilos de Duplo.
D'accord.
Ouais, encore 20 kilos de Ubulino.
C'est quoi les Ubulino là? C'est quoi?
Ouais, c'est des circuits à billes, mais c'est ouais. compatible avec des Duplo. Donc, on peut vraiment faire des super trucs avec ça. Attends, aussi.
Vous êtes vraiment spécialiste, hein, c'est génial, ouais.
ouais. Donc c'est génial, oui. Et sinon, j'ai quelques créations que j'ai fait spécialement pour décorer un peu la maison.
D'accord. Comme quoi, par exemple?
En fait, j'ai un pot à fleurs, j'ai fait une mosaïque de Abbey Road de mm-hmm. Beatles, que j'adore.
Alors ça, c'est la mosaïque de l'album, hein, c'est ça, hein?
En fait, j'ai utilisé un peu l'album et j'ai mm-hmm. recréé ça en Lego. Donc, c'est pas une boîte que j'ai achetée, parce qu'il existe aussi une boîte que Lego vient de sortir des Beatles. Hein. Mmh. Moi j'ai vraiment créé l'album en regardant bien, essayer de trouver des briques qui ressemblent un peu.
D'accord.
Et puis je vois également en rapport avec Noël, donc le Père Noël forcément, un renne et puis des boules également pour décorer le sapin. Comment on fait des boules en Lego? C'est carré un Lego.
En fait, on peut utiliser des briques qui s'appellent Snot. Stats not on top, donc
d'accord.
qui sont pas en haut de la brique. Et donc comme ça, ça nous permet en fait, quand on fait une boule, certes ça reste toujours un peu carré, hein, mais d'avoir des tenons un peu tout autour de la boule, quoi.
Ok. Et du coup, alors on peut voir toutes vos créations sur votre compte Instagram Le Royaume des Briques, un compte sur lequel vous avez également proposé pendant le confinement en fait des défis. Racontez-nous et donnez-nous des exemples de défis que vous avez proposés.
Alors moi j'étais au télétravail, donc puisque les enfants que je suis pour mon travail, ils sont habitués à faire des Lego, je me suis dit bon, il faut que je continue quand même à donner des exemples, quoi, pour les sortir de leurs habitudes. C'est-à-dire ils passent beaucoup de temps devant l'écran et je voulais éviter ça. Donc j'ai créé des défis Lego pour eux et je me suis dit bon, je vais aussi les poster sur Instagram et même sur LinkedIn. Comme ça, il y a peut-être d'autres personnes qui vont avoir envie de sortir leur Lego de
leur placard,
et jouer avec les enfants.
Et ça a marché, ça a pris.
Oui, c'est ça.
À tel point qu'il y a une personne importante, hein, du groupe Lego qui est venue vous voir, le vice-président de Lego Group France, Espagne et Portugal.
C'est bien ça, oui. C'est bien, ouais. Il m'a contacté, il m'a contacté une première fois, c'était mi-mai, je pense,
ouais.
Pour me féliciter pour les postes pendant le confinement. Et après, il m'a contacté il y a quelques semaines pour me demander si j'étais sur Angers le lendemain, parce qu'il passait et il voulait me donner une petite boîte pour me remercier.
C'est génial.
Je suis là et après il est venu et en fait c'était pas une petite boîte, quoi. J'étais bien gâtée.
Vous avez dû
c'était Noël avant l'heure.
Oui, c'est ça. Mais rien que le fait qui s'est déplacé spécialement pour ça, quoi. J'ai dit waouh.
Carrément. Et puis Du coup, ça va vous emmener, on imagine, encore un petit peu plus loin, puisque là, vous réalisez un site internet hein, spécialement. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver sur ce site et pourquoi, en fait, vous le réalisez ?
Alors, pourquoi je fais ça ? C'est parce que je trouve que il y a complètement, il y a un grand potentiel. Hein, y a pas mal d'enfants qui veulent avoir des Lego, mais en fait, ils reçoivent des boîtes et les parents savent pas trop quoi faire avec. Quand moi j'étais jeune, ouais. En fait, tout ce que je faisais, c'était suivre le plan. Et une fois que j'avais terminé ma création, mais c'était posé dans ma chambre, et quelques mois après, je démontais et je refaisais. C'est tout ce que je faisais. Et en fait, les Lego, on peut faire beaucoup plus. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Et moi, j'aime bien montrer ça aux enfants.
Grâce à des vidéos ?
Oui, entre autres, oui. Au début, je voulais faire des ateliers en ligne parce que c'était même encore la pandémie. Ouais. Mais plus tard, oui, ça peut être des ateliers vraiment en présentiel.
Voilà, les gens pourront peut-être acheter des petites décorations pour leur mariage éventuellement. C'est ce que vous avez eu en tête en tout cas, ouais.
Oui. C'est, oui. Bon, j'ai plein d'idées.
On peut peut-être pas trop tout annoncer. J'aimerais, alors Ilse, du coup on a encore plein de questions, on pourra pas tout aborder, mais par contre j'aimerais que vous me parliez de l'émission télé Lego Master hein, qui passe actuellement sur M6, une émission que vous connaissez très bien puisque vous la regardez en fait dans les autres pays, hein, ça cartonne un peu partout. C'est quoi cette émission, racontez-nous, donnez-nous envie aussi de la regarder.
Ben en fait, c'est un concours de jeux de construction, en fait. Hein. Il y a 8 binômes qui s'affronteront lors d'épreuves créatives. Et ils devront construire des figures sur des thèmes particuliers. Et ils ont 2,5 millions de briques Lego à leur disposition, ainsi que 5,000 mini-figurines.
Oh là là.
Ils doivent... Ouais, c'est ça.
Incroyable.
C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Et ils ont un temps imparti devant eux, ça peut être 7 heures jusqu'à 24 heures. Bien entendu, ils ont des pauses, ils peuvent dormir, mais c'est vraiment des belles réalisations qu'on
voit. Mais ça vous a jamais tenté de vous inscrire, vous, à cette émission ?
Non. On peut se parler avec des candidats qui ont participé aux Pays-Bas et Flandre.
Ouais.
Non. Donc j'ai eu beaucoup de retours et non, c'est pas pour moi ça.
Par contre, vous avez aussi une relation particulière avec quelqu'un, avec un candidat, David Aguilar, hein, c'est ça ? Racontez-nous alors. C'est qui David Aguilar ?
David Aguilar, c'est un jeune garçon, je pense qu'il a 21 ou 22 ans. Ouais. Il est né sans avant-bras droit. Et en fait, quand il avait 9 ans, il a commencé à construire sa première prothèse. Parce qu'il avait subi pas mal de moqueries et il a souvent essayé de cacher son bras. Et il adorait les Lego. Et un jour, il a eu l'idée de construire sa prothèse. Donc, quand il avait 8 ans ou 9 ans, ça n'a pas très bien marché. C'était pas assez solide. Donc, il a laissé tomber. Et à 18 ans, il a recréé un autre, cette fois-ci avec des pièces d'un hélicoptère Lego Technique. Et depuis, il a fait plusieurs modifications. Et donc, ses prothèses sont devenues très sophistiquées. Il bouge de plus en plus vite et ils lui font de moins en moins mal. Et donc, lui, il va participer aussi.
D'accord. Bah écoutez, en tout cas, c'est passionnant. On va vraiment partager en tout cas vos créations. Puis on incite vraiment les auditeurs à aller voir votre compte et à visiter un petit peu et à regarder ce que vous faites. C'est très étonnant. J'espère que les autres chroniqueurs, ça vous donne aussi, vous aussi, envie de créer des choses en Lego.
Voici la Soso Touch.
Tendance à me plaire.
Bonsoir à tous. Alors, nous voici réunis à nouveau hein, ce soir pour faire la lumière sur les questions qui vous taraudent. Et ce soir, nous allons coller au thème hein, de nos invités puisque vos questions sont tournées sur la boulangerie. Alors, installez-vous confortablement. Je suis à votre écoute. Vous avez carte libre pour me poser toutes vos questions. Et promis, je vais faire de mieux pour y répondre. Allez, on commence avec la première question.
Alors voici une question de Martine pour toi, Soso. On dit chocolatine ou pain au chocolat?
Alors là, effectivement, merci Martine, on commence fort, hein, puisque cette question quand même déchaîne les passions, selon que l'on soit du Nord ou du Sud, hein, c'est un éternel débat. Alors, selon l'endroit où vous résidez en France, vous parlerez plutôt de pain au chocolat en allant vers le Nord-Est, ou bien plutôt de chocolatine, hein, si on se dirige vers le Sud-Ouest. Et puis, nos amis belges, eux, hein, ils vont faire la transition complètement, ils appellent ça des cookies au chocolat.
Ah ouais.
Exactement. Alors, vous l'aurez compris, que ce soit pain au chocolat, chocolatine ou même cookie au chocolat, ces trois termes désignent bien sûr, hein, tous une même viennoiserie constituée d'une pâte levée feuilletée, identique à celle du croissant, mais au milieu, qu'est-ce qu'on a mis ? Une petite barre de chocolat pour faire un petit pain au chocolat. Et oui, voilà. Alors, ce soir, je ne vais pas lancer le débat. Il n'est pas question de départager ces appellations. Moi, je pense que le plus important, c'est de se régaler en les mangeant. Et puis, c'est tout.
C'est clair, voilà, c'est Martine. Trop beau, tu nous donnes faim. Merci Martine. Alors une question maintenant de Nono49. Faut-il mener les gens à la baguette pour gagner son pain?
Oh. Eh bien, je me doutais que Nono poserait une telle question. Merci Nono. Alors, comme on dit, baguette tradition, baguette viennoise, baguette céréale, flûte ou bien ficelle. Notre baguette a de l'allure et elle est tendance et elle revêt bien des tenues. Alors, tout le monde connaît l'expression « mener les gens à la baguette ». Alors, cette expression, elle trouve son origine dans les boulangeries. Jadis, hein, les chefs boulangers se servaient de leurs baguettes pour commander leurs troupes. Plus de farine par-ci, moins de sel par-là, mais plus énergique le pétrissage. Faites-moi un beau levain, que diable ! Enfin bon, vous l'aurez compris, hein, la baguette est ainsi devenue un symbole d'autorité. L'armée n'avait qu'à bien se tenir. Donc, plus votre baguette sera belle, appétissante, croustillante, alléchante, odorante, et plus, cher boulanger, vous allez gagner. Alors, nous comptons sur votre savoir-faire pour continuer à nous régaler et à faire durer cette belle tradition bien française que bon nombre de pays nous envient. Voilà Nono, j'espère avoir répondu à ta question.
Alors maintenant, une question de Victor, hein, qui ose une question. Hein. Quel chroniqueur a les plus belles miches?
Ah,
mon Dieu,
non.
Oh, voilà une question qu'elle est bien croustillante. Et ça, je suis sûre que vous attendez ça avec impatience. Alors, quels sont les secrets de nos chroniqueurs pour avoir de si belles et bonnes miches? Eh bien, je vais tout vous révéler. Hein. Alors, ouais, je vais commencer par celle de Bruno. Alors, lui, il a plutôt des miches bien fermes. Hein. Son secret, c'est tout l'art du pétrissage. Hein. Il sait pétrir à merveille et ça lui fait des petites fesses, enfin des petites miches, pardon. Des petites miches, que dis-je, bien fermes. Et puis, tiens, on va continuer avec Raphaël. Alors, les siennes, je dirais qu'elles sont légèrement dorées. Rien de tel que des petits poulets en suvée pour les trouver, voilà, toutes appétissantes, dorées. Ça fait envie tout de suite, hein, n'est-ce pas?
Mais alors, du coup, les miches pour les hommes, c'est les fesses, alors?
Bah oui.
Les femmes, c'est les seins.
Bah, c'est l'expression, c'est en argot pour tout le monde, hein, les fesses.
Ah, c'est les seins, je pensais, les miches, moi.
Ça dépend des gens, en fait.
Mais moi, pour moi, ça a toujours été les miches.
Quoi. Ah oui, ah bah pour moi, c'est les belles miches.
Ouais, pour parler de mes miches, s'il vous plaît, on parlait de mes fesses, vous pouvez continuer, s'il vous plaît.
Ah d'accord, pardon.
Tu peux continuer, ce soir.
Alors, quant à Olivier, les siennes, elles sont alvéolées. Olé.
Alvéolées. Alvéolées.
Ah, c'est pas mal. Olé, olé, alvéolées.
Ils ont des alvéoles, qu'est-ce qui se passe?
Alors...
Moi, je dois le prendre.
T'as des coups?
Non, c'est olé, olé. Ouais. Elles sont alvéolées. Ah, et quant à toi, Caro, les tiennes, elles sont poudrées et tendances, toutes circonstances.
Poudrées.
Ah. C'est poudrées, pas farinées. Enfin, tu vois, t'es poudrées.
Elles sont talquées, quoi.
Farinées, enfin voilà, t'es tendances en toutes circonstances. Et Pierre-Benoît, lui, il est plutôt tradition, voire rustique. Et je suis sûre que...
Oui, c'est clair.
Ce serait des topettes. Alors, parmi toutes ces belles miches, vous comprendrez bien, chers auditeurs, qu'il m'est difficile de trancher. Je n'ai qu'une chose à dire, les amis, vous êtes tous à croquer. Voilà.
Oh, c'est mignon, hein, joli chronique. Une question, en tout cas. Alors, on a encore une question de Nathalie, hein, qui se demande comment on fait du pain perdu.
Alors, chère Nathalie, exceptionnellement pour vous ce soir, je vais me révéler. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tout bon magicien ne dévoile jamais les secrets de cette tour de magie. Mais ce soir, pour vous en direct, et rien que pour vous, chers auditeurs, je vais transgresser cette loi. Attention, vous le voyez, ce morceau de pain ? À la une, à la deux, abracadabra, vous ne le voyez plus ? C'est normal, il est perdu !
Ok. Mais c'est n'importe quoi.
Non, mais quoi, ça va, quoi. Allez. Il hein n'y a pas que Bruno ni Pierre-Benoît qui ont le droit de faire des blagues pourries. Moi aussi, je m'y mets.
Oui, mais le pain perdu, c'est super bon. C'est ma spécialité. J'adore en faire.
Eh bien, ouais. Justement, mon Bruno, hein, vous l'aurez compris, vous l'aurez voulu. La recette du pain perdu, c'est tout simple. Vous prenez une tranche de pain rassis, oubliée dans votre boîte à pain, du lait, un œuf, du sucre, vous mélangez tout ça et abracadabra, vous faites revenir dans une petite poêle à droite, à gauche, on retourne et vous avez votre dessert ou votre goûter, une belle tranche de pain perdu. Voilà Nathalie.
Alors, moi, j'ai quand même une question par rapport au pain perdu et j'ai un dilemme en fait, je ne sais pas comment le manger. Est-ce que c'est un plat le soir?
Avec une
fourchette? Est-ce que c'est un plat salé? Enfin, tu vois. Ou un dessert, j'ai du mal à comprendre en fait.
C'est sucré.
Ouais, c'est plus sucré.
Dessert. C'est un dessert plutôt.
Ouais, c'est plus sucré. Ouais.
Il se peut qu'il y ait des cuisiniers qui le fassent en salé. Et maintenant, on trouve de tout. Donc, il suffit d'éviter de mettre du sucre dans ta recette et peut-être tu peux en faire un plat salé, ça peut. Hein.
Et vous trouvez ça bon du coup?
Moi, j'aime bien.
Très bon, avec un petit peu de miel et tout, c'est super bon.
Allez, merci Soso.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, ce soir, on va voir les questions mode, look, tendance ou les petites astuces voilà, de mes acolytes, hein, donc de vous, et de nos auditeurs aussi, puisque j'ai eu quelques questions sur Instagram. Donc c'est cool d'être suivi.
Super.
N'hésitez pas sur Tendance à me plaire ou sur mon compte. Nanana.
Ça pue.
Au passage. Voilà. Alors, première question et pas des moindres. Pourquoi le orange ne va à personne? Alors, ça m'a fait beaucoup rire comme question. C'est hyper cash. Mais en même temps, c'est tellement vrai. Donc, c'est une très bonne question et on va voir ça ce soir. Et pourtant, je vais vous montrer à quel point c'est jouable hein, quand même. Pour homme ou pour femme de porter du orange. Alors, c'est vrai que c'est difficile comme mélange. Hein, parce qu'en fait, le orange, c'est un mélange de deux couleurs au final. Hein, on va parler un petit peu... Je suis obligée de prendre l'accent marseillais là. On va parler un petit peu technique. Hein. Bruno, tu vas me rejoindre sur la chromatique.
Je ne vois pas pourquoi tu prends l'accent marseillais pour parler chromatique.
Je ne sais pas, pourquoi pas. En fait, on parle technique, donc il faut que je change de voix, tu vois. Donc, on me parle technique.
Non, bon, enfin, c'est du jaune et du rouge, hein, tu ne vas pas non plus nous faire 3 heures là-dessus, quand même.
Ah
ben
non.
Ouais.
Non, mais Bruno, la chromatique, alors, ça te parle?
Oui.
Voilà. Alors, donc, en fait, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, dans les couleurs primaires, on a le cyan, le magenta et le jaune. Donc voilà, ce sont les couleurs de base. Donc magenta, à peu près rouge, quoi, c'est facile à porter. Le jaune, couleur brute, pure, facile à porter. Mais l'orange, c'est un mélange de couleurs. Et du coup, ben, c'est plus compliqué, en fait. D'un point de vue technique, c'est pas une couleur pure. Bref, l'orange brut vif, c'est impossible à porter. Donc on oublie. Donc il faut aller chercher, en fait, dans des nuances. Par exemple, ben, pas l'orange vif. Donc le pêche, par exemple, sur une peau mate, c'est très beau. Par exemple, sur une peau blanche, ben, c'est moche. Ça va faire malade. Donc le fluo, pareil, l'orange fluo sur une peau noire, magnifique. Sur une peau blanche, eh bien, ça va faire bizarre en fait.
Il faut que ça contraste beaucoup en fait ou pas beaucoup par rapport à notre peau. Qu'est-ce qui est le mieux? Si c'est trop proche de la peau, ça va, Sarah. C'est
si
bien.
C'est trop
ou
proche
c'est...
de la peau, non. Justement, il faut un petit peu faire le contraire, quoi.
D'accord. Donc faut, si on a une peau claire, faut un orange foncé. Si on a une peau foncée, faut un orange très clair.
Bon, moi, par exemple, qui a une peau blanche-blanche, zéro orange.
Ouais. Alors, le rouille, en fait, c'est la seule alternative. C'est une couleur qu'on trouve... Alors, c'est vrai que le nom n'est pas
très glam.
C'est pas très glam. Mais c'est une couleur qui se fait beaucoup en ce moment et qui va à peu près toutes les carnations de peau. Parce que c'est vrai que les peaux blanches, en fait, si vous mettez du pêche ou du... Enfin, il suffit d'avoir une petite pointe de blanc, en fait, à vite faire malade et triste et voilà, ça va pas raviver la couleur de la peau, quoi. Pas très dynamique tout ça. donc le rouille. Et en fait, c'est ce qui se fait beaucoup, c'est une couleur éteinte en fait. Donc ça va vraiment à n'importe quelle carnation et homme aussi bien que femme. Alors en homme, cette saison, on le voit beaucoup en pantalon ou en manteau, un petit par-dessus comme ça. Et pour les femmes, moi j'aime bien en accessoire un beau foulard dans les cheveux. Tu vois, Soso, t'es châtain brune comme ça, un petit foulard rouille dans les cheveux, magnifique.
Ben, c'est drôle, j'ai jamais essayé. Il faudra qu'on tente. Je dis pas non, mais je dis pas oui non plus.
Mais c'est vrai que voilà, c'est le plus adapté pour les vêtements en gros par catégorie. Mais c'est vrai que dans le global, l'orange, c'est pas n'importe lequel et par petites touches, quoi. C'est une couleur délicate, quoi, oui. Allez, le col roulé. Wow. Est-il à la mode?
Ah, le col roulé. Ah, le fameux.
Ah oui. Eh bien, c'est surprenant, mais un grand oui pour le col roulé. Pour les femmes...
Tu vois, Olivier,
alors,
tu
dis que c'est moche. J'étouffe, là, je suis mal à l'aise.
Non, mais c'est parce que ça vous rappelle votre jeunesse, les petits cols roulés que vous mettiez quand vous aviez 5-6 ans à l'école, orange et jaune. Mais non, c'est pas cela, les garçons. On parle pas du lycra, on parle de belles matières, on parle de coton, de laine, de choses magnifiques.
Donc, c'est un parce que, oui, c'est vrai que nous, on se souvient du soupule, celui que quand on enlève, ça fait plein d'électricité statique.
Voilà.
Ah, ça, c'est horrible. Ça se fait plus, ça.
Non, c'est horrible. Ouais. Non, c'est horrible, on sue, ça pompe pas la sueur, on reste avec les oreilles toute la journée, ça c'est horrible. Il faut prendre un beau pull avec une belle matière. Donc pour les femmes, évidemment, c'est toujours à la mode, hein. Tous les hivers, ça revient, un beau col roulé noir, voilà, en cachemire si possible, c'est un petit basique. Pour les hommes, si vous avez peu de coups et si vous êtes tassé, ben vous oubliez. Mais sinon, un beau col roulé bleu marine, si vous êtes roux, avec un kilt... Ça rappelle l'Écosse.
Ah oui, bon. Ça fait beaucoup de choses quand même pour avoir un col roulé quand même.
Je m'égare, j'ai trop regardé Outlander, désolé.
Non mais c'est quand même super agréable un col roulé quand il fait froid.
Ah bah oui, ça évite en plus d'être encombré par une écharpe, etc. Puis ça met le visage en valeur. Si vous avez un beau visage, tu vois Bruno, avec tes yeux bleus, un beau petit col roulé bleu marine, là, pas mal, tu vois.
Bon bah voilà.
Donc bref, pour le col roulé, ben, c'est maintenant, parce qu'en plus on est en pleine tendance années 70, mais on choisit bien ses couleurs, pas d'orange évidemment, pas de jaune, pas de marron, pas de vert, on reste dans des couleurs basiques, bleu marine, noir, etc. Voilà. Troisième question, un vieux peut-il s'habiller en jeune sans être ridicule? Alors vous êtes très drôle hein, dans vos questions. Eh bien moi je dirais un grand oui, tant que c'est assumé le maître mot du truc. On doit s'habiller comme on veut maintenant, tant qu'on se sent bien comme ça. Le principe, c'est quand même de rester un petit peu subtil et de pas être too much quoi. Si vous avez 60 ans et que vous adorez les baskets, avec une petite chemise et un petit pull de couleur, c'est beau. Mais on va éviter le jogging et le t-shirt de Jules. Ouais, wesh alors.
Bah surtout si on a pris un peu de poids, en fait. C'est surtout ça le problème.
Et effectivement, voilà, il faut toujours penser à sa morphologie. Est-ce que ça nous met en valeur ou non? Voilà, mais si vous aimez les joggings, si vous aimez porter, allez-y. YOLO, on n'a qu'une vie, quoi.
C'est bien.
Alors, quatrième question, il y a de plus en plus de vêtements unisexes vendus dans des rayons mixtes. T'en penses quoi, Caro? Eh bien, j'en pense que pour certaines pièces, certains basiques, c'est plutôt cool. Des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, voilà, des choses très classiques, why not? Après, je mets un bémol sur l'évolution de cette tendance, car au final, la morpho féminine est quand même très différente de la morpho masculine. Donc déjà, il n'y a pas un corps de femme qui est similaire à un autre corps de femme. Pareil pour les hommes, un corps, c'est aussi une histoire. Donc c'est vrai que je vous parle souvent de morphologie, mais c'est des trucs très globaux au final. Mais il y a autant de corps que de personnes, et c'est déjà assez compliqué, je trouve, de trouver quelque chose qui nous va parfaitement. Donc voilà, moi je mets un petit bémol, parce que j'ai juste un petit peu peur d'un effet de masse, un peu uniformisation de la population, quoi. Voilà.
Oui, mais par contre, c'est assez désagréable dans les magasins, en fait, parce que quelquefois, on ne sait pas si on est dans le rayon femme ou homme.
Ouais.
Et on cherche à dire, ah tiens, ça nous plaît. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on est au rayon femme. Et là, du coup, moment de solitude, et on essaye de partir un petit peu en crabe pour retrouver le rayon homme.
Ah, tu trouves? C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se confondre. Il y a des choses qui se prêtent très bien, aussi bien vestiaire femme que homme. Après,
donc d'avoir un rayon qui est au moins pour les deux, ça peut être sympa aussi.
Ça peut être sympa, mais ça sera pas jouable pour tous les articles, quoi.
Ouais. Les soutiens-gorge moins, par exemple.
Voilà, ça va être compliqué. Après, hein, tu peux essayer quand même. Ça se
fait belle miche.
En fait.
Bah oui, c'est ça, oui.
Voilà. Alors ensuite, question d'un gros fan de basket comme moi. Pourquoi la basket s'est démocratisée? Alors, je pourrais parler sneakers des heures et des heures. Moi, je suis Nadie. Donc, c'est un incontournable, la basket de nos jours. N'est-ce pas, Raph, avec tes Adidas Gazelle?
J'adore mes gazelles.
N'est-ce pas? Eh bien, la basket phare du moment, c'est la Nike Air Jordan. Bon, sorry. Et elle a contribué à, en fait, sortir la basket des terrains de sport. Pourquoi? Petite historique, parce que dans les années 90, les stars qu'on adorait, c'était des rappeurs, des chanteuses, mais est venue la vague des joueurs de basket, en fait. La grosse star de l'époque, c'était qui? C'était Michael Jordan.
Michael Jordan.
Évidemment, la star des Chicago Bulls. Et donc, Nike a sauté sur l'occasion pour collaborer avec lui et créer sa première paire à lui de basket. Et donc, il a créé la Air Jordan 1. Et il faut savoir que la première année de sa mise en vente, Nike a fait 100 millions de dollars de vente, ce qui est énorme. Donc, c'est comme ça qu'est venue la collaboration basket, joueur de basket, etc. Et pour l'anecdote, c'est quand même une paire que voulait porter Michael Jordan pour tous ses matchs. C'est normal, c'est sa paire, il a choisi la couleur, la forme, etc. Et la NBA l'a interdit, en fait, à cause de la couleur. Elles n'étaient pas réglementaires. Le rouge, le noir, c'était pas du tout réglementaire sur un terrain, il fallait du blanc. Donc, la NBA a menacé Michael Jordan d'une peine de 5 000 $ d'amende pour chaque match joué avec cette paire. Il faut savoir que Nike a payé toutes les amendes qui ont suivi. Donc, Michael Jordan a gardé sa paire et ça a fait un tollé historique et ça a fait que cette basket, c'est devenu un vrai mythe. Donc voilà, la basket, elle s'est démocratisée parce que nos idoles ont changé. Maintenant, c'est les stars du foot, c'était les stars du basket dans les années 90. Et du streetwear, ben, on en voit partout.
Oui, mais alors techniquement, c'est pas quand même la même chose. Une chaussure de sport, une chaussure pour courir. La basket, c'est vraiment très, très spécifique comme coupe. Ben, c'est pas n'importe quelle chaussure. On mélange un peu tout dans les chaussures.
Oui, maintenant, tout est mélangé parce qu'en fait, il y a les baskets qui se sont un petit peu techniquement améliorées pour courir, pour tel sport, pour etc. Il y a vraiment des technologies de dingue maintenant.
Et donc dans le terme basket, en fait, tu mets toutes les chaussures de sport.
Ouais.
Pas la seule chaussure pour les baskets.
À la base, toutes les baskets qui sont devenues des baskets de ville, et de street, comme la Adidas Gazelle, etc., à la base, c'était vraiment des chaussures utilisées pour faire un vrai sport. Comme la Converse, en fait. La Converse, à la base, c'était une des premières baskets des années 50. Pour faire du basket, c'était la plus souple et celle qui tenait mieux à la cheville, en fait. Et elles se sont un peu popularisées et on les porte à la rue. Mais à la base, c'était vraiment des baskets pour le sport.
Eh bien, merci, hein, Caro.
C'est l'heure de l'invité.
Avec nous aujourd'hui, nous recevons Aishi, un artiste photographe, une personnalité angevine positive qui déborde d'énergie et d'envie et aventurier dans l'âme. Nous avions envie vraiment de vous le faire découvrir. Alors pour ceux qui ont Instagram, on vous conseille en même temps de visionner son compte en tapant Aishi Mata et Aishi.jpeg. Alors Aishi, ça s'orthographie A-I-S-H-Y. Dis donc, c'est pas facile pour un début. D'ailleurs, bonjour Aishi.
Salut, bonsoir à tous.
Bah alors, première question, ça vient d'où ce nom, ce pseudo?
Aishi, ça vient d'un pseudo japonais que j'ai inventé il y a très longtemps quand je jouais aux jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis c'était un petit peu plus long à l'origine, mais je l'ai réduit en Aishi pour faire plus court et depuis, ça me suit toujours.
D'accord. Alors, en parcourant les photos que tu publies, on est époustouflé par leur qualité artistique et on voyage vraiment, notamment à travers tes photos de paysages photographiés dans différents pays. Alors, ça nous fait vraiment rêver et on comprend qu'on a affaire à un passionné et à un professionnel. Raconte-nous ton parcours dans la photographie, notamment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo ?
Ouais, bah en fait moi c'est simple, c'est qu'à la base j'étais du coup plutôt dans la vidéo sur YouTube. En fait, je me filmais en train de faire des parties de jeux vidéo. Ça fonctionnait plutôt bien, tu vois. Et puis à force de faire des petites vidéos, je me suis vraiment intéressé du coup à ce média-là. Et donc j'ai décidé de m'acheter un appareil photo. Avec cet appareil, bah, je me suis mis à filmer un peu tout et n'importe quoi, aller faire des sorties, voilà, pour filmer et faire des un peu comme des petits clips de musique, mais à ma façon. Sauf que c'était pas de la musique, je filmais dans les champs. enfin voilà, je filmais tout et n'importe quoi, je montais ça, ça me faisait des petites images. Et en parallèle de ça, moi, tu vois, je travaillais en tant que graphiste, donc j'ai appris un petit peu en autodidacte la photo au fur et à mesure des années. Puis là, en 2017, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une agence, donc c'est ce que j'ai fait et je me suis vraiment, j'ai vraiment switché du graphisme à la photo et à la vidéo dans mon côté pro.
Du coup, cette agence, en fait, t'a permis de travailler sur plein de projets. En fait, tu es un petit peu aussi tout terrain. Hein, tu photographies des artistes chanteurs, comme par exemple Odor, hein, c'est bien ça.
Ouais.
Des spectacles aussi que tu photographies, que tu mets en valeur, mais aussi des joueurs de foot ou des lieux incroyables. On va y revenir. Alors, est-ce qu'il y a malgré tout des projets, des thèmes qui te tiennent plus à cœur?
Moi, j'ai surtout eu l'occasion en 3 ans d'évoluer sur la partie studio, les portraits, tout ça. La lumière, quand on est amateur, on n'a pas toujours l'occasion de réaliser artificielle. En fait, c'est un truc que j'ai vachement développé et que j'adore faire. Surtout moi qui aime beaucoup travailler avec des lumières un peu dans les tons futuristes, rose et bleu. Donc, en studio, on peut se permettre de faire un petit peu ce qu'on veut, de maîtriser la lumière soi-même, contrairement à la photo d'exploration un peu de nuit dans les rues, où là je vais plutôt jouer avec l'éclairage existant et les conditions naturelles.
Justement, comment tu définirais ta patte artistique de photographe? C'est quoi qui fait la différence avec d'autres photos plus classiques selon toi? Qu'est-ce qui marche?
Alors, à proprement parler, moi, par rapport, par exemple, quand je fais des expositions, je vais avoir tendance à mettre en avant mon travail que j'appelle cyberpunk, donc qui va être de la photo que je vais faire beaucoup de nuit, par exemple, après la pluie, donc quand le sol est bien brillant, et pour essayer de capter vraiment tous les reflets dans le sol, dans les vitres, enfin, vraiment jouer avec l'urbanisme et essayer de proposer une version, une vision alternative de la ville, par exemple. Donc en fait, quand on voit mes photos, on peut se dire mais c'est pas du tout naturel. Enfin, j'ai jamais vu ça avec mes yeux, mais c'est un petit peu ce que je souhaite faire, c'est vraiment proposer une vision alternative de la ville qu'on connaît aujourd'hui avec ma patte cyberpunk. Et donc c'est ça un petit peu qui fait l'originalité de mes clichés. Et voilà, j'ai beaucoup photographié à Angers au fur et à mesure des années en m'inspirant du Japon. Et j'ai fini par y aller, voilà, de Angers au Japon.
Alors justement, du coup, on va en parler. Donc, tes photos prennent vie souvent à l'occasion d'expositions. Tu mets ton travail de cyberpunk en valeur, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer dans le détail ce que c'est cet univers pour les gens qui ne connaissent pas du tout? Comment tu décrirais ça?
Alors c'est vrai que c'est un peu un terme un peu compliqué, cyberpunk, ça peut faire peur à première vue, mais en fait c'est une variation de la science-fiction, vraiment voilà, un univers un peu futuriste mais assez sombre. Quand on voit du cyberpunk, on pense au film type Blade Runner, des choses un peu comme ça, voilà, où voilà, on est dans un univers un peu sombre et très futuriste. Et après, moi voilà, c'est un peu ce que j'essaye de représenter à travers mes photos. Après, je le fais de nuit, mais pas que, j'arrive aussi à créer ces ambiances de jour, donc c'est un équilibre à trouver dans le traitement de mes images.
Et puis avec des couleurs particulières, des couleurs flash aussi, hein, des couleurs bien violettes, bleues, c'est bien identifié finalement.
Ouais, c'est ça, j'essaye de jouer sur les contrastes forts des couleurs, hein. Donc moi je suis graphiste à l'origine, donc tout ce qui est les couleurs, c'est mon domaine de base avant même de faire de la photo. Et donc jouer avec les couleurs qui tranchent, donc le bleu, cyan, magenta, ça marche très fort, ou même on peut aller sur du bleu et du rouge. Enfin, voilà, il y a des équilibres très intéressants à trouver au niveau du traitement de l'image.
Donc là, ces photos, on peut les découvrir notamment sur ton compte du coup professionnel aishi.jpeg. Hein,
c'est un compte que j'ai créé où je mets beaucoup voilà, tout ce que je fais autour du cyberpunk. Et c'est dédié à ça, et ça permet vraiment aux gens qui vont sur ce compte de trouver vraiment ce que je fais dans le cyberpunk.
Mais moi, je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de la voir, cette exposition. C'est vrai que c'est incroyable de voir aussi sa ville d'une autre façon, finalement, puisqu'on voyait également des photos de nos rues angevines, mais d'une autre façon. Et c'était incroyable. Ça a eu beaucoup de succès, cette exposition. Tu as eu beaucoup de retours.
Ouais, c'est ça. Et puis moi, tu sais, je suis très chauvin, j'aime beaucoup ma ville. Donc j'étais très content de pouvoir la montrer sous un autre jour, parce que les gens me l'ont dit, ils n'ont vraiment pas l'habitude de la voir comme ça. Et aussi de mettre en avant, pas forcément les lieux les plus emblématiques d'Angers, mais de montrer qu'avec des petites ruelles, des petits endroits où j'aime moi aller à Angers, et ben on peut les montrer sous un nouveau regard, quoi.
D'accord. Alors pour parler maintenant de tes voyages, du coup tu as été donc en Islande, en Afrique et notamment et également au Japon. Donc c'est un voyage qui t'a bouleversé. Raconte-nous ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce que t'as dit?
Non, mais c'est ça, c'est le Japon. Disons que je m'en suis toujours inspiré dans mes images sans y être allé. Donc c'était un petit peu un doux rêve en arrière-plan, là. J'ai toujours eu envie d'y aller. Et puis en fin 2019, je me suis dit, oh, allez, si je regardais un peu les billets d'avion pour la période des fêtes, tout ça, histoire d'aller passer le nouvel an à l'étranger. Et puis bon, j'ai regardé pour le Japon. Et puis là, voilà, j'ai trouvé une offre assez intéressante. Et je me suis dit, allez, c'est maintenant. Je suis parti tout seul. Donc, j'ai réservé mon billet d'avion le 26 novembre de mémoire pour le 26 décembre. Donc, vraiment un mois avant. Et je suis parti un petit peu en improvisation sur un coup de tête. Et je pense que c'était une très bonne décision. Parce que là-bas, je suis arrivé un peu sans rien connaître du pays. Je me suis allé en totale improvisation, tu vois. Ensuite, après ce pays, j'arrive tout de suite. J'ai trouvé tout ce que je cherchais, c'est-à-dire beaucoup de sources de lumière, de la foule aussi. J'ai pas eu l'occasion de photographier des grandes villes au final, puisque en Angers ça reste très très petit à côté d'une ville comme Tokyo. Donc j'ai pu vraiment me faire plaisir là-dessus, et c'était vraiment des nuits blanches aussi passées dans les rues, c'est-à-dire que je sortais le soir, je partais un petit peu avant l'heure que avant les derniers métros par exemple, tu vois, et comme ça je passais vraiment ma nuit quelque part dans une zone où il n'y avait plus de métro, donc c'est-à-dire que les gens, la plupart rentraient chez eux, et donc tu avais les rues assez vides, donc j'avais vraiment de quoi m'amuser pour faire les photos. Et au final, c'est aussi là que tu te rends compte que Tokyo, c'est jamais vraiment vide, parce que même à 4h du mat, tu trouves des restos ouverts. C'est une ville qui s'arrête jamais de vivre.
Ah ouais. Et du coup, tu t'as même rencontré ton photographe préféré par hasard, en fait, dans une rue, il me semble.
En fait, c'est assez drôle, c'est qu'on se suit sur les réseaux sociaux, tu sais, on avait déjà interagi ensemble. Et quand j'ai su que je partais au Japon, je lui avais envoyé un petit message pour lui dire, tiens, est-ce que tu as des choses à me recommander sur le Japon, des bonnes adresses, des choses comme ça. Donc, lui n'est pas japonais, mais il y va régulièrement, donc je lui ai posé la question, et il m'a gentiment recommandé des trucs, il m'a demandé mes dates, et en fait il s'est retrouvé qu'il était là-bas aussi en même temps que moi. Il m'a dit tiens, si tu veux, on se captera. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'en fait il m'a croisé dans la rue, il m'a reconnu, mais il n'était pas certain que c'était moi, donc il m'a envoyé un message pour me dire, attends, c'était toi à tel endroit avec ton bonnet et ton topique. Ouais. Et le plus drôle, c'est que moi je filmais à ce moment et j'ai la séquence vidéo, il passe devant moi, donc là c'était vraiment la totale, tu vois. C'était très drôle. Donc au final on s'est pas croisé à ce moment là mais on se donnait un rendez-vous, et je trouve ça vachement inspirant de rencontrer un peu la personne qui t'a donné envie qui m'a donné envie d'aller voir le Japon, de faire de la photo, tu vois. Donc on a photographié ensemble, il m'a montré son endroit préféré de Tokyo, il m'a invité dans son restaurant de ramen préféré. C'est vraiment quelqu'un de très adorable, Liam Wong, si vous connaissez pas, faut aussi découvrir son travail, donc qui est très dans le cyberpunk aussi, mais pas que. Un très très bon photographe.
Et puis dernièrement, tu as voyagé également en Islande, tu as fait un road trip, une aventure extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas dans ce voyage?
En fait, faut quand même avouer qu'après un confinement, on a des quand comme moi, j'aime beaucoup, moi j'ai la bougeotte, tu vois. Donc après le confinement, j'avais besoin de reprendre un peu de liberté, et donc j'ai eu l'occasion de partir en Islande là, voilà, cet été. Et hop, une semaine, un van avec un ami, on a fait 2500 km tout le tour de l'Islande, et donc on s'est fait tout un petit parcours. C'est fou, tu passes de la plage à la montagne, plage de sable noir, t'as des lacs de glaciers, donc tu vois des icebergs, des cascades gigantesques, c'est fou.
Ouais, et ça donne des photos particulières, singulières, avec des paysages blancs, en fait, des paysages glacés. Est-ce que tu as vu des aurores boréales?
Alors, j'y étais en été, donc c'était pas la période, malheureusement, parce qu'en fait je n'ai pas vu la nuit du tout. C'est-à-dire que c'est le soleil éternel l'été, et puis l'hiver c'est quasiment la nuit infinie aussi, donc faut vraiment choisir sa saison là-bas. C'est six mois de jour ou six mois de nuit, donc j'ai pas eu la chance de voir des aurores boréales, mais j'espère y retourner en hiver pour pouvoir les capturer aussi avec mon appareil photo.
Et depuis donc quelques jours, tu as annoncé sur ton compte que tu travailles désormais en tant qu'indépendant. Alors, quels sont les projets sur lesquels tu vas travailler, ou est-ce que tu as vraiment une envie particulière là pour les prochains mois qui arrivent?
Oui, c'est ça, là, tu vois. Donc après 3 ans en agence, je me suis dit qu'il était un peu temps pour moi de me lancer aussi de mon côté. Alors c'est peut-être pas le meilleur moment avec la période actuelle, mais je me suis dit que il fallait y aller. Là, j'ai eu des premiers projets qui sont tombés, qui m'ont aussi permis d'y aller. Et là, en ce moment, en fait, je travaille sur quelque chose qu'on me demande beaucoup, c'est les tirages photos, en fait. Quand j'expose, on me demande, tiens, est-ce qu'on peut avoir vos photos et tout. Donc moi, la manière la plus simple que j'ai trouvé de faire ça, c'est d'ouvrir une boutique en ligne afin de proposer mes tirages dessus. Donc là, je travaille sur l'ouverture de mon site internet. Puis sinon, voilà, c'est un petit peu le développement de mon entreprise, de projets, peut-être de nouveaux voyages à l'avenir.
Et puis on peut s'offrir aussi tes belles photos en grand, dans des cadres, j'imagine.
Oui, c'est ça. Oui. Comme, voilà, c'est tout, généralement tout ce que j'expose est disponible ensuite si on veut les avoir chez soi.
Dernière question, du coup, un peu plus personnelle. Alors, on imagine que ça a un coût, finalement, tout ça, ça demande peut-être des sacrifices. Comment tu finances tes voyages? Comment ça se prépare? Est-ce que tu as des conseils à donner?
Ouais, c'est clair. Par exemple, sur un voyage comme le Japon, si on peut en parler des chiffres. Moi, je sais que mon voyage au Japon m'a coûté un petit peu moins de 4 000 euros. Donc, tu vois, c'est des budgets entre l'avion, l'hébergement, la nourriture. C'est des gros budgets. Après, j'y suis allé vraiment dans un optique professionnelle, c'est-à-dire faire de la photo pour derrière, monter des expositions, proposer des tirages. Donc, c'est quelque chose que je souhaite rentabiliser à terme aussi. Mais en dehors de ça, c'était une expérience très riche humainement parlant. En dehors du plan financier, c'est des voyages qui changent quelqu'un, je pense, et qui font vraiment du bien. Moi, en tout cas, j'en avais besoin et ça m'a vraiment fait du bien, ce voyage. Et donc, voilà. Après, le plan financier, ça reste aussi l'investissement matériel, tout ça. Mais c'est comme toute entreprise, en dehors de, un musée a besoin d'acheter une scie. Enfin, voilà. Ça reste des investissements qu'il faut rentabiliser comme toute entreprise.
D'accord, en tout cas, on pourrait parler des heures avec toi, parce que j'imagine que tu n'as pas encore plein de choses à nous raconter. Tu restes avec nous pendant tout le long de l'émission. En tout cas, on te souhaite également une bonne route dans ton parcours et dans ta nouvelle vie professionnelle. On va continuer à te suivre et on partagera bien évidemment les liens vers tes comptes pour que nos auditeurs puissent te découvrir.
Alors, mon sujet du jour traite des expériences de mort imminente ou EMI. Alors, bien qu'il paraisse farfelu, je me suis interrogée longuement sur ce sujet. Beaucoup, beaucoup de travail, mais je vais vous faire un condensé.
Oui.
Après tout, n'ayons pas peur des mots, ce n'est rien d'autre que la conscience d'être mort. Alors, presque rien du tout, en fait, mais vous voyez bien que ce postulat ouvre tout un champ des possibles qui, dans nos sociétés devenues moins spirituelles que matérialistes, a malgré tout trouvé une voie scientifique comme un pont entre deux mondes que tout oppose. Alors, science ou croyance, qu'est-ce que l'EMI? Alors, tout d'abord, il s'agit de savoir de quoi on parle. À ce jour, 7 critères caractérisent une EMI. Ces critères ont été identifiés en 1975, date des premières recherches scientifiques par le docteur Moody. Alors, c'est vous dire que c'est quand même assez récent dans l'histoire des hommes. On retrouve dans les 7 critères la décorporation, vous savez, le fait de flotter dans l'air, sortir de son corps, observer ce qui se passe autour, la lueur intense et blanche mais non éblouissante, l'absence d'espace dimensionné, de haut, de bas, de gauche, de droite, la rencontre avec des défunts, voilà, qui nous parlent, qui nous disent des choses, une impression de tout connaître comme une fusion avec le tout, une sensation de bien-être et une indifférence émotionnelle de ce dont on est témoin, c'est-à-dire de sa propre mort, dont on pourrait penser quand même que ça nous fasse un peu souffrir. Eh bien là, pas du tout. Il apparaît donc qu'on peut scientifiquement répertorier les EMI, d'autant qu'elles ont de réelles répercussions, qu'elles soient positives, influençant la spiritualité ou la compréhension d'autrui, ou négative, générant un syndrome de stress post-traumatique, une dépression ou un divorce, parce que ce ne sont pas que des expériences heureuses, en tout cas quand les gens reviennent. Il apparaît donc qu'une personne sur 10, dans ces recherches-là dont je vous parlais, qu'une personne sur 10 dans le monde aurait vécu une expérience de mort imminente. Quand même, c'est un peu énorme. Ouais. Alors, c'est une étude qui a été menée sur plus de 2000 personnes. Donc, c'est vous dire qu'elle est répertoriée. Voilà. Elles sont rapportées par des personnes ayant été confrontées à un danger mortel ou non. Car oui, l'EMI intervient lors d'un arrêt cardiaque, un traumatisme cérébral ou une chirurgie lourde. Alors ça, on y aurait tous pensé. Mais elle peut aussi se produire, et ça, c'est plus étonnant, pendant le sommeil, sous l'emprise de drogue, dans un état de méditation ou pendant une syncope. Voilà. On peut même les partager, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages qui rapportent une expérience d'EMI partagée entre plusieurs personnes, par exemple, qui assistent au défunt d'un de leurs proches. Donc c'est très curieux, mais c'est recensé scientifiquement.
Au décès d'un proche, tu veux dire ?
Ouais. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Au défunt d'un proche.
Ah, au décès d'un proche. Alors, contrairement au ressenti le plus fréquent, certaines seraient extrêmement déplaisantes. Alors, pas seulement le retour, mais l'expérience elle-même qui serait déplaisante. Alors, ce serait le cas de 14% d'entre elles avec présence d'éléments du scénario désagréable, de vide, avec un sentiment de grand isolement. Les personnes évoquent un environnement sombre, un ressenti oppressant. Alors, par ailleurs, elles disent avoir rencontré des êtres diaboliques ou avoir été témoins de scènes de torture. C'est vous dire que le vécu n'est pas sensationnel quand même. Alors on pourrait penser que la culture, le niveau d'éducation, le sexe, Les croyances sont des facteurs influençant le MI. Or, elles ont été rapportées à travers tous les continents, mais également à travers les différentes périodes de l'histoire humaine. Certains récits évoquant des phénomènes aux caractéristiques similaires remontent jusqu'à l'Antiquité. Platon, dans la République, fait le récit du voyage dans le lieu divin que fit Er, mort sur un champ de bataille, mis sur un bûcher pour y être brûlé, mais revenu à la vie. Er, de Pamphilie, est présenté comme un observateur de ce qu'il advient aux âmes après la vie, ou bien encore avant la vie. Alors vous voyez que c'est une histoire qui dure depuis très très longtemps. Les enfants sont eux aussi concernés. Trop jeunes pour avoir subi un conditionnement culturel et religieux, ils rapportent des expériences de mort imminente similaires à celles des adultes. Voilà. Et eux aussi voient des défunts. Donc comment on pourrait...
Ça me rappelle le sixième sens, enfin
ben
les
oui,
films.
Voilà. Alors, ils rapportent des expériences d'avoir rencontré des défunts que eux-mêmes n'ont pas connus. Mmh. Donc c'est quand même un peu curieux. Voilà. Alors, si l'EMI est décrite, on peut en interroger l'origine. Dans ce domaine, il y a finalement peu de réponses aujourd'hui. Comme toute démarche scientifique, elle a été passée au crible des hypothèses concernant les mécanismes neurophysiologiques et neuropsychologiques. Alors, on compte l'hypoxie, le manque d'oxygène, l'excès de dioxyde de carbone dans le sang, une crise d'épilepsie, vous voyez, un choc électrique qui viendrait perturber le fonctionnement, l'usage de drogue, etc., etc. Tout a été passé au crible, en tout cas, de ce que vous pouvez penser être à l'origine des EMI. Toutefois, à l'heure actuelle, ces hypothèses ne permettent pas de rendre compte de la totalité du phénomène. C'est-à-dire que quand on trouve quelques explications à quelques critères, finalement, on ne trouve pas de réponse à tous les critères qu'on a recensés dans les EMI. Donc voilà, et tant qu'on n'a pas validé tous ces critères, on ne peut pas expliquer pourquoi elles se produisent. Certains émettent une autre hypothèse qui appartient à la physique quantique, bien plus qu'à la médecine. Il faudrait se représenter un électron qui aurait la faculté d'être partout à la fois et qu'on ne saurait pas localiser. Espace non local qui influence nos relations individuelles que Stephen Hawking nomme trou de ver. Alors là, je ne sais pas si ça vous parle, hein. Mm-hmm. Ça commence à devenir un peu compliqué. Alors, un trou de ver, c'est en astrophysique un objet hypothétique qui relierait deux feuillets distincts ou deux régions distinctes de l'espace-temps et se manifesterait d'un côté comme un trou noir et de l'autre côté comme un trou blanc. Voilà. Ce qui expliquerait l'effet de tunnel. Voilà. Il faudrait se le représenter comme une feuille qu'on replierait sur elle-même. Le bord de la feuille.
Elle est en train d'écrire, hein, pour ceux qui sont à la radio avec ses mains. Elle est en train d'essayer.
Pardon, c'est expliquer. De la radio.
Oui, excusez-moi. Enfin bon, bref, je ne rentrerai pas dans les détails, vous n'avez qu'à aller chercher.
Alors, le rapport avec le trou de ver et la mort imminente alors.
Ben c'est l'effet tunnel. On pourrait penser que c'est ce que j'ai, c'est ce que tu disais, t'as pas écouté.
C'est,
c'est l'histoire de l'électron qui serait mobile tout le temps, qui ne serait pas localisable. Et j'y viens. L'hypothèse avancée dans le cadre de l'EMI serait donc celle de la conscience extracorporelle. Notre cerveau n'étant qu'un émetteur récepteur de celle-ci. Voilà. Vous voyez, vous comprenez ?
Oui.
Notre corps ne serait qu'un vecteur. Alors on se calme. Hein, à ce jour, les trous de ver sont des concepts purement théoriques. L'existence et la formation physique de tels objets dans l'univers n'ont pas été vérifiés. C'est vous dire bah, qu'on n'a pas fini d'en débattre.
Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, ce que ça intéresse, il y a eu un documentaire qui a été fait courant 2019, ça s'appelait Thanatos, l'ultime passage, et justement il faisait l'état de plein de témoignages de personnes dans le monde entier, qui, enfin entre autres, hein, ils ont sélectionné, mais qui ont vécu, que ce soit de façon positive ou négative, ces états de mort imminente que tu décris.
Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes les émissions dans leur intégralité sur le site radio-g.fr, mais aussi sur notre site tendanceimplaire.fr. Alors n'oubliez pas, on se retrouve entre le 28 mai et le 6 juin à l'occasion des 100 ans de la radio et dès le 1er juin pour une série d'émissions inédites de Tendance Implaire. Toutes ces infos, vous les retrouverez bien sûr sur les réseaux sociaux. Allez, à très vite et à bientôt les amis.
Tendance Implaire.
Radio G 101.5 FM. Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio G.